Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jeudi dernier à 15h, le glas des églises de France a sonné pour les trois victimes de l'attentat islamiste de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Un triple assassinat à l'arme blanche qui rappelle, comme l'a relevé le président Macron, celui du père Jacques Hamel en juillet 2016, égorgé dans son église alors qu'il célébrait la messe.
Après l'assassinat du père Hamel à l'été 2016, c'est une nouvelle fois les catholiques qui sont attaqués dans notre pays menacé. La nation tout entière se tient à leur côté et se tiendra pour que la religion puisse continuer de s'exercer librement dans notre pays. Car notre pays, c'est cela, ce sont nos valeurs. Que chacun puisse croire ou ne pas croire, mais que chaque religion puisse s'exercer. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui, nous n'y céderons rien.
Dire non à l'esprit de vengeance, répondre au mal par le bien, a réagi le pape François dans un message d'eux-mêmes. Responsables chrétiens et musulmans, tout en exprimant leur grande émotion, ont appelé à l'union et à la fraternité, comme Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles.
C'est la fraternité qui est visée. Ici, un professeur d'histoire-géographie, là, des catholiques, ailleurs encore, des gens qui sont systématiquement attaqués, simplement pour ce qu'ils sont. Et donc, à chaque fois, c'est la possibilité de vivre ensemble avec les différences qui font la beauté de notre pays qui est directement visée. Donc, l'objet du combat est clairement identifié, c'est la fraternité. Et c'est sur ce combat-là qu'est d'abord un combat éducatif, un combat de maîtrise du débat public, un combat de la communication sur les réseaux sociaux. C'est ce combat-là qui doit nous mobiliser.
Ce nouvel attentat islamiste est intervenu une semaine après, jour pour jour, l'hommage du président Macron à la Sorbonne, rendu à Samuel Paty, l'enseignant de Conflans, Sainte-Honorine, décapité pour avoir montré à ses élèves les caricatures du prophète Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression en France. Discours dans lequel le président Macron avait déclaré que la France ne renoncerait pas aux caricatures. Phrase qui devait déclencher une vague de protestations dans le monde arabo-musulman, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans l'émission. Mais avons avec nous en ligne Mohamed Collin, directeur de la rédaction de Saphir News, quotidien en ligne sur l'actualité du fait musulman. Mohamed Collin, bonjour.
Bonjour.
Ce triple assassinat dans ce contexte de surchauffe à l'international, comme je le disais, est-ce que c'est encore un islamiste qui a voulu venger le prophète? Est-ce que l'on peut dire que c'est un dialogue de sourds avec les islamistes qui se poursuit?
Oui, bien sûr, évidemment, parce que les islamistes, ils ont tout un intérêt à ce que on puisse critiquer les musulmans de France et les musulmans à travers le monde entier, parce que pour eux, c'est le carburant nécessaire à leur idéologie.
Lundi dernier, Mohamed Collin, vous avez publié une tribune que vous avez intitulée « Pour une éthique de responsabilité contre l'éthique victimaire ». Expliquez-nous.
En fait, ce qu'on souhaitait faire comprendre, qu'aujourd'hui, il est important pour les musulmans de dénoncer la victimisation, car c'est le lit de l'extrémisme et de l'islamisme. À savoir que les islamistes ont tout intérêt à jeter de l'huile sur le feu pour gagner à leur cause des musulmans indécis.
Dans cette même tribune, Mohamed Collin, vous écrivez qu'il faut être intraitable, qu'il ne faut pas laisser la moindre place au « oui mais ». Là, vous pensiez aux caricatures, à la liberté d'expression?
Oui, oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas laisser dire qu'il n'est pas possible de publier des caricatures.
Mais Mohamed Collin, on ne peut pas faire non plus l'impasse sur un fossé culturel qui existe. Là, je pense notamment à ce qui se passe à l'étranger actuellement, qui a nécessairement des répercussions sur ce qui s'est passé en France. Il y a un fossé culturel en ce sens que la liberté d'expression, la liberté de religion, la conception même du sacré, voilà, ce sont des notions qui ne sont pas les mêmes.
Oui, absolument. Le fossé culturel, je pense, il se fait au niveau de la représentation sexualisée des corps. qui n'est pas comprise à l'étranger ou même auprès de certains musulmans de France. Et cette représentation sexualisée, pour eux, correspond à quelque chose d'obscène. Alors que en France, elle a peut-être le lien avec une tradition grivoise.
Les responsables musulmans se trouvent en France, en tous les cas, et là je pense notamment à Mohamed Moussaoui, hein, sur une ligne de crête quand même qui est extrêmement extrêmement étroite. Mohamed Moussaoui, cette semaine, hein, c'était mercredi, a dû faire une mise au point sur les caricatures, parce que la veille, lors d'une interview concernant les caricatures, donc il avait évoqué un possible renoncement à certaines formes de satire, précisément, et cela au nom de la fraternité. Et finalement, donc, ça n'a pas du tout été compris, ça a soulevé des réactions. Et du coup, le lendemain, donc c'était jeudi, dans un mea culpa quand même courageux, hein, il a dit, voilà, je n'avais pas mesuré le lien qui serait fait avec le sentiment d'abdication face aux terroristes, hein, que cette phrase pouvait effectivement engendrer. C'est très compliqué, cette ligne de crête à tenir.
Oui, c'est extrêmement compliqué parce que les musulmans, encore une fois, ont l'impression d'être pris en grippe par le discours ambiant. Il y a un climat anxiogène. Il y a aussi des discriminations réelles qui existent à l'emploi et au logement, hein, qui sont le lot aussi de beaucoup de populations. Et certains font la confusion avec un racisme anti-musulman.
Et je poursuis Mohamed Colin avec donc cette mise au point de Mohamed Moussaoui sur les caricatures, qui disait, bon, tout en reconnaissant bien sûr le droit à la caricature, hein, mais il disait dans ce même communiqué, nous devons être conscients du risque qu'une expression non maîtrisée puisse alimenter une posture victimaire aux conséquences néfastes. Les assassinats commis dans notre pays et en Europe, en lien avec les caricatures et dont les auteurs prétendaient défendre l'islam, doivent nous le rappeler. C'est quasiment une phrase prémonitoire par rapport à ce qui s'est passé ce jeudi, Mohamed Colin.
Oui, parce que, comme je le rappelais, ces caricatures peuvent être le carburant de ces islamistes, de ces terroristes, hein. Plus il y en aura, plus il y aura de publications et plus ils auront un argumentaire pour dire que la France serait, je mets bien des guillemets, anti-musulmane. Hein, donc favoriser l'amalgame. Et c'est là où vraiment c'est difficile. Pour autant, on ne doit absolument pas renoncer à cette liberté. Et je le dis avec beaucoup... Je suis directeur d'un quotidien sur le fait musulman. Et donc, je le dis, on ne doit pas y renoncer. Et en même temps, les musulmans peuvent exprimer leur désamour, sans pour autant amoindrir cette liberté-là. Vous voyez, c'est toute la complexité.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'effectivement dit également Mohamed Moussaoui, en disant effectivement qu'on a tout à fait le droit de ne pas aimer, mais il appelle à prendre de la distance utile et nécessaire par rapport aux caricatures. En gros, les ignorer. Vous pensez qu'effectivement, c'est une attitude qui peut être possible aujourd'hui dans ce contexte?
En tous les cas, il faut éduquer les musulmans à cette distance. Hein. C'est nécessaire. Je pense même que c'est un exercice spirituel.
C'est-à-dire
de pouvoir les ignorer. Hein, parce que, comme il le cite très bien d'ailleurs Mohamed Moussaoui dans son communiqué, où le prophète a été attaqué de sobriquet et il les a ignorés. Donc c'est quelque part un exemple prophétique.
En fait, il faut rappeler que les catholiques qui sont aujourd'hui visés à travers ce triple attentat, eh bien, ils ont connu aussi cette période où il a fallu apprendre à digérer la caricature et à finir par s'en moquer, à ne pas, comment dirais-je, se sentir visé particulièrement par la caricature. Là, on pense au début du XXe siècle, quand il y a eu la séparation des Églises et de l'État.
Oui,
même avant au 18e.
À partir du 18e et 19e siècle, et durant toute le 20e siècle, il y a eu un anticléricalisme très fort, où on se moquait effectivement des catholiques, du Christ, hein, et j'ai envie de dire que le Christ, c'est le Fils de Dieu, et donc, au niveau du symbole, c'est un symbole qui est très fort, qui a été tourné en dérision pendant plus de 200 ans. Et quelque part, les musulmans viennent après. Et donc, c'est important qu'ils ne s'en enfusquent pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire vraiment preuve de pédagogie. Et je pense qu'il faut prendre de la distance, et notamment la distance historique nécessaire pour mieux comprendre qu'on n'attaque pas les religions en tant que telles, mais c'est plutôt une idéologie islamiste, une idéologie instrumentalisée à des fins politiques.
En conclusion, Mohamed Colin, défendre les caricatures comme un principe, en quelque sorte, c'est en fait, c'est défendre l'islam sur le long terme, c'est défendre les musulmans sur le long terme, sur le moyen terme même.
Oui, c'est défendre les musulmans sur le long terme, à moyen et long terme, contre une instrumentalisation de leur religion à des fins politiques.
Mohamed Colin, directeur de Safir News. La France, cible privilégiée du terrorisme islamiste, la France également dans le collimateur des pays arabo-musulmans. Appel du Qatar et de la Turquie au boycott des produits français. Manifestation dans la capitale du Bangladesh devant l'ambassade de France, au Caire. Le conseil des sages de l'université sunnite d'Al-Azhar, présidé par le grand imam, qui envisage de poursuivre en justice quiconque offenserait l'islam et ses symboles sacrés. Le Maroc et la Jordanie, d'ordinaire pondérés, qui se sont sentis obligés de manifester leur désaccord et de durcir le ton. Le « nous ne renoncerons pas aux caricatures » prononcées par le président Macron à la Sorbonne lors de l'hommage au professeur décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète soulève, on le voit, une tension diplomatique et relance une bataille culturelle qui avait commencé en 2015 avec l'attentat de Charlie Hebdo. Alors, comment sortir de ce dialogue de sourds? Pour y répondre, notre invité, Joseph Maïla, spécialiste des relations internationales, de l'islam et des conflits, professeur à l'ESSEC, ancien directeur du pôle religion au ministère des Affaires étrangères et de la direction de la prospective dans ce même ministère. Joseph Maïla, bonjour.
Bonjour.
Alors, question, comment effectivement sortir de ce dialogue de sourds?
Oui, effectivement, la situation est compliquée. Pour sortir de ce dialogue de sourds, je crois qu'il faut faire la part des choses. Dans cette espèce de vent de folie qui souffle dans les relations internationales et notamment à l'occasion de cet horrible événement de Conflans, il y a à distinguer d'une part ce qui est de l'ordre de la diplomatie qui est faite par exemple par la Turquie, puisque c'est la Turquie qui mène la danse, si l'on ose dire, et qui là véritablement cherche, en rebondissant sur une affaire à caractère ou à dimension religieuse, effectivement, à alimenter sa diplomatie en termes de mobilisation, en termes de confrontation, avec la France, bien entendu. Mais il faut y prendre garde aussi, enfin, ou faire attention plutôt, c'est l'OTAN qui est ciblée, c'est l'Union européenne qui est ciblée, et derrière tout cela, le président turc, M. Erdogan, cherche une chose, à affirmer sa position, sa stature de leader, cette espèce de sultanat néo-ottoman qui cherche à s'imposer à travers M. Erdogan comme leader ou comme pôle califal et leader du monde musulman, tout cela c'est de la diplomatie. Il faut séparer cela et y répondre de manière diplomatique et raisonnée et calme, parce qu'il ne faut pas entrer dans le jeu de M. Erdogan. Il faut le distinguer de véritablement la sensibilité, si vous voulez, culturelle, qui est là aussi exploité, canalisé par des partis islamistes un peu partout dans le monde arabo-musulman, et qui, elle, véritablement témoigne, alors si on va au-delà de l'événement, d'une sensibilité à l'égard de ces questions à laquelle il faut prendre garde, hein, c'est-à-dire, ou de laquelle il faut prendre garde, parce que on a un vrai problème qui se pose en termes, je ne dirais pas de choc des civilisations, je n'y crois pas, mais en termes de sensibilité culturelle
de décalage
de décalage, voilà, de dissonance, de décalage, avec des populations qui sont sincèrement attachées aux symboles religieux, et quel symbole plus important que le Coran et le prophète en islam, et qui sont extrêmement promptes à partir ou à s'enflammer pourvu qu'on les canalise. Mais il y a un fond de sensibilité sur lequel il faut véritablement un travail pédagogique pour faire comprendre ce que c'est que la liberté de conviction, la liberté de croyance. Et il y a effectivement un décalage entre ce que l'Europe développe vis-à-vis du religieux et la situation des religions dans des pays qui sont encore attachés très fortement, quand je dis fortement, je veux dire par la législation, au fondement islamique de leur État. Donc, il faut véritablement qu'il y ait un travail d'apaisement qui soit fait à ce niveau, en tenant compte de cette espèce d'inégalité de perception concernant la chose religieuse entre divers pays du monde.
Mais alors, Joseph Mailhac, est-ce qu'il faut, en quelque sorte, lever le pied, c'est-à-dire, effectivement, renoncer aux caricatures, ce qui serait effectivement un renoncement de la liberté d'expression, ce qui est impensable en France, ou bien adoucir, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle pédagogie faut-il appliquer?
Alors, la question, effectivement, de renoncer et ne se pose même pas. Je veux dire, c'est un des fondements de la République, la laïcité, la liberté d'expression. Et je pense que le président Macron avait repris cette phrase, ou avait affirmé plutôt, nous ne renoncerons pas aux caricatures, précisément, et en premier, pour affirmer qu'on ne recule pas. Et il faut envoyer ce message extrêmement fort, il y a un cadre légal, il y a une liberté d'expression, et on ne va pas céder devant des actes terroristes qui peuvent se répéter à chaque fois, miner un petit peu à la fois le moral et en croyant toucher au fondement de la République. Non, cela, il faut pas renoncer.
Même si le prix est élevé, même si le prix est élevé. On le voit bien.
Même si le prix est élevé. Sinon, c'est le fondement de la sociabilité, mais je dirais le fondement des valeurs culturelles, de la sociabilité non seulement française, mais européenne. C'est-à-dire la liberté de... Si la laïcité n'est pas quelque chose de partagé en tant que tel dans les constitutions européennes, la liberté d'expression est quelque chose qui lie l'Europe entre elles avec les valeurs attachées à la liberté de la personne humaine et de l'individu. Ça, on ne recule pas là-dessus. Seulement, il y a effectivement à faire, notamment dans certaines instances onusiennes, à expliquer ce que veut dire pour la France cette laïcité ou cette liberté d'expression, et conduire une diplomatie, allez, je vais me jeter à l'eau, je ne vous cache pas, une diplomatie de caractère religieux, pour ne pas dire une diplomatie religieuse, ce qui serait un terme déplacé, puisque l'acteur, c'est l'État, et ce ne sont pas les religions, pour expliquer que la religion entre dans un cadre culturel, et qu'elle est aussi régulée par les lois de la République, et qui permettent à un individu de faire la critique des religions, que ce soit une critique raisonnée, fondée, savante, ou de faire des caricatures. Et là, c'est un travail d'explication, une diplomatie qui doit entrer en contact avec les instances que vous avez citées. Par exemple, le cheikh d'Al-Azhar, grand imam, il faudrait qu'il y ait une démarche, une discussion avec lui. Je me souviens qu'il y a des diplomaties effectivement interreligieuses. Je me souviens que le pape Jean-Paul II s'était rendu à El-Azhar.
François aussi.
Il avait affirmé. Pardon.
Le pape François aussi.
Et François aussi, bien sûr. Il dit que le pire des crimes, c'est de s'attaquer à quelqu'un au nom de Dieu. Il avait dit, il n'y a pas de guerre sainte, par exemple. Et il n'y a pas de guerre sainte en tant que telle, de guerre menée au nom de Dieu. Et c'était une parole extrêmement forte dans le lieu où elle a été prononcée. Alors la grande effectivement nouveauté, c'est que les questions qui fâchent au plan international, qui divisent, ne sont pas seulement économiques. Elles ne sont pas d'ordre politique et de simple rivalité entre les nations. Il y a véritablement la question de savoir dans quel monde nous voulons vivre, selon quelle modalité culturelle, selon quelles valeurs, selon quels principes, et de ne pas prendre pour acquis, je ne sais pas moi, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui disent « Tout homme a droit à une libre expression, tout homme a le droit à exprimer ses convictions religieuses ». C'est un débat qui avait eu lieu après le 11 septembre dans les enceintes onusiennes, avec véritablement à l'époque, mais je le dis simplement pour replacer les choses dans leur contexte historique, la conférence islamique qui voulait faire de la diffamation des religions, par exemple, puisque nous y sommes là, la diffamation des religions un délit en soi, une critique en soi, et donc quelque chose de condamnable. Or, nous sommes dans la liberté d'expression, chaque individu est libre de sa liberté de s'exprimer précisément, mais cette liberté n'est pas absolue. Elle est encadrée par les lois, s'il y a un discours de haine, il y a des tribunaux pour cela, et faire comprendre que c'est l'état de droit qui régule la liberté d'expression.
C'est
et comme
ça.
Je vous disais, ce qui m'inquiète, c'est le débat sur le plan culturel, sur le plan des valeurs, sur le plan de la coexistence de valeurs contradictoires. Et là, il y a une diplomatie qui se rapproche plus de la pédagogie que de la négociation.
Joseph Maïla, spécialiste des relations internationales. Pour la fête de la Toussaint, ce week-end du 1er novembre, le quotidien La Croix a proposé dans son édition de vendredi un reportage sur la traditionnelle visite dans les cimetières. Le cimetière, un lieu pour les vivants, c'est le titre de ce reportage signé Élodie Moreau, journaliste au service culture du quotidien La Croix. On y apprend que 34% des Français se rendent systématiquement dans un cimetière, mais pas forcément à cette occasion. On y apprend que 39% des Français vont au cimetière une à trois fois par an et 24% jamais. Élodie Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré des prêtres, des diacres, des philosophes, des sociologues pour ce reportage. Et il y a un sociologue qui a une très belle phrase concernant cette visite au cimetière. Le cimetière est un lieu qui aide les vivants, Élodie Moreau.
Oui, je crois que c'est ce qui ressort du reportage que j'ai fait, des rencontres, des interviews que j'ai pu faire. C'est que le cimetière, quand on a un rapport avec le cimetière, hein, puisque c'est pas tout le monde qui se rend au cimetière, mais ceux qui y viennent, régulièrement ou pas, ils trouvent un lieu qui les aide. Et un lieu qui les aide de différentes manières. C'est ça qui était très intéressant dans cette enquête, c'est de voir la diversité du rapport des personnes au cimetière, le fait que c'est un lieu qui les touche personnellement et qu'un lieu avec lequel elles tricotent un petit peu au fil de leur vie, des relations plus ou moins lâches, plus ou moins fréquentes, plus ou moins solitaires, on y va seul, on y va à plusieurs. Et la diversité aussi des motivations pour se rendre dans ce lieu, puisque vous parliez des sociologues, des théologiens que j'ai pu avoir, j'ai aussi eu pas mal de quidam, de personnes comme vous et moi qui ont accepté de me partager ce que représentait ce lieu pour elles. Et voilà, d'abord elles étaient très émues souvent d'en parler et elles avaient à cœur de me dire ce que ça représentait. Donc j'ai senti vraiment sur ce reportage que on touchait un lieu intime et d'autant plus intime qu'il a peu, ce lien a peu l'occasion de se dire. Les gens ne s'interrogent pas mutuellement sur ce qu'ils font, s'ils vont au cimetière ou pas. Donc là, pour eux, on sentait que c'était un peu l'occasion de parler de ce qui habituellement est caché, est discret, est pudique. Et dans les motivations, ce qu'ils expriment est très varié. Il y a ceux qui se rendent là pour, bien sûr, on va tous là pour penser à ceux qu'on a aimés et qu'on continue à aimer, mais il y a ceux qui y vont un peu pour se réancrer dans une filiation, dans la succession des générations. Il y a ceux qui y vont pour s'apaiser. Quelqu'un m'a dit, moi quand ça va pas très bien, je vais au cimetière. Alors que d'autres, ça serait l'inverse. Ils sont pas très bien, ils iront jamais là. Donc,
oui.
Il y a ceux qui y vont pour continuer à faire quelque chose pour les défunts. C'est une belle expression. Et quelqu'un m'a dit, j'avais beaucoup visité mon filleul enfant qui était malade et après sa mort, j'ai eu envie de continuer à faire quelque chose pour lui et c'était de me rendre à son chevet. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui viennent prier et des chrétiens qui croient que le corps des défunts ne marque dans la tombe ne marque pas la fin de leur existence, qui croient à la résurrection, des chrétiens m'ont dit, c'est important pour moi de venir prier là. Là où on peut pas tricher avec la mort quelque part, là où on voit les effets de la mort pour tenir vivante mon espérance.
Vous insistez sur le fait, Élodie Moreau, que aujourd'hui la visite au cimetière, elle est beaucoup plus individuelle que collective par rapport au passé où effectivement le cimetière était beaucoup plus à un moment collectif.
Oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé le témoignage d'un entrepreneur en pompes funèbres et en marbrerie qui travaille depuis, sa famille travaille depuis trois générations au cimetière de Montrouge Et il m'a parlé de son rapport au cimetière. C'était très très intéressant d'avoir quelqu'un comme ça qui, depuis l'âge de 19 ans, il en a 71 aujourd'hui, vit au quotidien le cimetière. Et il me disait, mais vous vous rendez pas compte, il y a 50 ans, au moment de la Toussaint, on voyait des fils qui n'en finissaient plus entre la porte d'Orléans et le cimetière de Montrouge. C'était sans discontinuer, les gens venaient. Voilà, il me dit, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et en même temps, il me disait, il y a quand même des gens qui viennent tous les jours, j'en vois encore. Donc, mais il insistait sur le fait quand même que les temps avaient changé. Et c'est ce que le sociologue Jean-Pierre Franière m'a dit également. Il me dit aujourd'hui, autrefois, le cimetière, c'était vraiment le lieu public, le lieu collectif de notre lien aux défunts. Aujourd'hui, ce lieu est un peu excentré, mais il reste important, il reste le lieu où on vient tricoter. J'aime bien cette expression parce que je trouve qu'elle dit un peu la liberté aujourd'hui que les gens ont par rapport à ce lieu. Autrefois, il y avait des codes qui marquaient la fin de vie, qui marquaient l'enterrement, les funérailles, et puis le temps d'après, le temps où on allait au cimetière. Et il y avait des rites. Il y a encore des rites dans nos cimetières. On n'y fait pas n'importe quoi, ça reste un lieu collectif. Mais Jean-Pierre Franière dit, c'est un lieu collectif privatisé. C'est-à-dire que dans ce lieu-là, malgré tout aujourd'hui, comme dans beaucoup de domaines de nos vies, eh ben, chacun va avoir sa manière d'être en rapport avec les morts. Ça va être des fleurs, ça va être un type de tombe, une tombe végétalisée, une tombe avec une inscription, des manières de venir à des temps qui comptent pour soi. Ça peut être un anniversaire de naissance, un anniversaire de mariage, la fête des pères, la fête des mères, voyez. Donc chacun invente, crée aussi son lien à ce lieu.
C'est ça, il n'y a plus de code collectif. Alors les fleurs, toujours les fleurs. Élodie Moreau.
Les fleurs, je fleure toujours les fleurs. Je crois, oui, quand même, c'est encore un geste très important. Dans une récente enquête, on montrait du credo que à peu près 70% des gens apportent des fleurs sur une tombe. Donc ça reste un geste très important, un geste plein de sens. C'est la philosophe Vinciane Després qui m'en parlait dans une interview. Elle me disait, mais les fleurs, réfléchissons à ce que ça représente. Les fleurs dans notre culture, c'est le geste de l'hospitalité, c'est ce qu'on offre quand on est reçu à dîner chez des amis. Les fleurs, c'est bien sûr le geste de l'amoureux qui dit « je t'aime ». Et puis les fleurs, c'est la célébration. Et elle me disait, ben voilà, je crois qu'on peut dire que au-delà des usages, des habitudes, hein, on sait que malheureusement au moment de la Toussaint, les fleurs sont pas toujours très variées, qu'il y a beaucoup de chrysanthèmes, mais malgré tout, le geste d'offrir des fleurs, c'est rassembler l'hospitalité demandée aux morts, comme on vient chez eux, un peu quelque part au cimetière. C'est le geste qui dit je t'aime, et puis c'est le geste qui célèbre leur vie, et pour ceux qui croient en une vie après la mort, leur espérance.
Élodie Moreau, merci. Je rappelle le titre de votre reportage publié dans La Croix, Le cimetière, un lieu pour les vivants. Les Français en quête de rites. C'est le dossier de la Toussaint du Pèlerin. L'hebdomadaire chrétien rappelle qu'à cause du confinement, nombre de familles ont vu les funérailles escamotées au printemps dernier, alors que le besoin de rites dans une société déchristianisée n'a jamais été aussi vif. Avec nous en ligne, Marie Von Bus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef à Pèlerin. Vous avez participé à cette enquête. Alors, avec le reconfinement, est-ce que vous craignez, est-ce que les familles craignent que, effectivement, on reparte, j'allais dire, sur le même modèle des funérailles au printemps dernier, c'est-à-dire avec très peu de personnes. Vous citez notamment le cas d'une famille où les pompes funèbres avaient dit « Écoutez, madame, il faut choisir, vous avez effectivement de nombreux enfants, mais il faudra choisir parmi eux ». Est-ce que vous craignez ce cas de figure ?
Alors, a priori, ça ne devrait pas être le cas. On n'a pas encore tous les détails, mais Emmanuel Macron a rappelé la nécessité de pouvoir se rendre dans les cimetières et puis célébrer de manière apaisée des funérailles. Vous vous rappelez qu'au printemps dernier, effectivement, il y avait des quotas. On ne pouvait pas dépasser 20 personnes, parfois 10 dans certaines circonstances. Ces quotas ont été levés par un décret de juin dernier. Et donc, aujourd'hui, théoriquement, il n'y a plus de nombre maximum de personnes autorisées à venir à un enterrement, à condition, bien entendu, que les gestes barrières soient respectés. Ce qui est intéressant, c'est que cette dimension est apparue de manière flagrante. On ne peut pas empêcher l'hommage aux défunts. Nous avons absolument besoin de rites et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un des avantages collatéraux de la période précédente de confinement. C'est qu'on a compris qu'on ne pouvait pas escamoter la mort.
Oui, effectivement, vous avez rencontré beaucoup de personnes dans ce reportage, notamment Marie de Henzel, qui dit « la fonction du rite est d'apaiser ». Et d'apaiser et de poser une étape sur le chemin du deuil.
Oui, absolument. Le rite est là pour encadrer cette période absolument essentielle. On sait que les funérailles ont cette fonction hein, de nous permettre de dire adieu à nos défunts. Les morts et les vivants ne cohabitent pas dans les mêmes lieux depuis des siècles. Les vivants ont besoin, eux, de vivre leur vie. On les confine donc, les défunts, dans des cimetières, dans des lieux qui sont de plus en plus à l'extérieur des villes. Et il faut que l'adieu puisse être organisé de manière digne, officielle, publique, afin qu'il puisse se faire dans de bonnes conditions.
Même si un tiers des cérémonies sont civiles.
Oui, aujourd'hui, effectivement, le désir de cérémonie reste vif. En revanche, les cérémonies religieuses sont de moins en moins demandées parce que la culture chrétienne, tout simplement, est en train de s'étioler de plus en plus. En revanche, des demandes d'hommage arrivent de manière différente aujourd'hui. On voit monter des questions autour de la dispersion des cendres, des funérailles écologiques, la demande de lieux où on puisse effectivement, par exemple, enterrer une urne biodégradable au pied d'un arbre. Tout cela n'est pas encore autorisé par la législation en France, mais c'est une tension, c'est une demande qui émerge de plus en plus fortement en Europe.
C'est ce que l'on appelle l'humusation, c'est cela, c'est quand une urne biodégradable donc est posée dans la terre avec une graine pour un futur arbre, c'est bien ça l'humusation ?
Alors non, pas tout non. À fait. Effectivement, il y a la possibilité de demander une urne biodégradable. Dans certains cas, en effet, une graine est plantée, ce qui permet à un arbre de grandir, mais l'humusation, de manière plus précise, c'est une technique qui permet de transformer le corps du défunt en compost. Il n'y a pas forcément de passage par une graine d'arbre, mais c'est cette idée que le corps retourne à la terre et d'une certaine manière, on retrouve là des usages monastiques très anciens, puisque dans la tradition monastique, par exemple, le corps est déposé dans un simple linceul et déposé directement en terre. Il redevient poussière, hein, comme on dit dans la Bible. Et donc, il y a là peut-être une sagesse monastique à entendre.
Je vous remercie, Marie-Yvonne Bus. Je rappelle le titre de ce dossier Toussaint de pèlerins, Les Français en quête de rite. Merci. Marie-Yvonne Bus évoquait à l'instant la tradition monastique d'inhumation des corps dans un linceul à même la terre. Eh bien, c'est un moine, frère Jean-Pierre Longeat, qui va nous parler de l'au-delà. Sur les traces de l'au-delà, c'est le titre du livre publié aux éditions Salvator, fruit de ses longues conversations avec la journaliste Monique Hébrard. Frère Jean-Pierre Longeat est un moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Martin de Ligugé, près de Poitiers, abbaye dont il a été le père abbé. Et il préside aujourd'hui l'Alliance Intermonastère, l'AIM. Musicien, frère Jean-Pierre joue du hautbois. Frère Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en ligne de l'abbaye de Saint-Martin de Ligugé. Alors, ce livre de conversation avec Monique Hébrard est le deuxième, puisque vous aviez publié ensemble il y a une quinzaine d'années, Parole d'un moine en chemin, c'était aux éditions Albin Michel. Monique Hébrard a derrière elle une longue carrière journalistique dans le domaine des religions. Elle a une connaissance pointue de la Bible, mais ça ne lui donne pas les clés de l'après. En tous les cas, c'est ce qu'elle dit en préambule, hein, dans l'introduction de votre livre. Vous, frère Jean-Pierre, qui accompagnez beaucoup de gens, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, comme Monique Hébrard, face à un monde technique, scientifique, rationaliste, j'allais dire, eh bien, les religions, ou en tous les cas la religion chrétienne, n'ont plus ce pouvoir apaisant et consolateur?
C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut situer simplement le rôle de la religion dans un après ou un au-delà, quoi, si vous voulez. Et en fait, c'est peut-être mal posé l'originalité de l'apport religieux. Parce que, en fait, ce qui intéresse surtout la religion, c'est l'ici et maintenant. qui donne à penser éventuellement d'un grand projet qui va au-delà. Mais c'est d'abord dans l'ici et maintenant qu'on peut dire quelque chose sur le goût et la qualité de la vie, plutôt que sur une projection qui est malgré tout relativement arbitraire, puisque qui peut dire quoi que ce soit sur l'avant et l'après de la vie présente. Donc je trouve que les religions peuvent apporter davantage sur la qualité de la vie pleine, surabondante, dès maintenant, aujourd'hui, comme venant de Dieu, avec le souffle de l'esprit, etc., etc., et que sur des projections mentales, et finalement dire plus sur ce qu'est la vie dans sa dimension de surabondance pour l'éternité, qu'en disant simplement des choses qui ressemblent plus à des projections, effectivement.
Oui, vous voulez dire qu'effectivement, les religions ne sont pas une assurance vie, n'est-ce pas, après la mort. Cela dit, ça a changé, parce que si l'on regarde le Moyen-Âge, les religions pouvaient effectivement apporter une sorte de réponse aux grandes peurs que représentait l'enfer, oui. Précisément.
Oui, oui, c'est sûr qu'on a exploité cette dimension-là d'une manière un peu facile, et même, j'allais dire, presque comme un projet social. C'est-à-dire que le christianisme est devenu, à partir du IVe siècle, une espèce de grand système permettant d'édifier un corps social d'inspiration, enfin, entre guillemets, chrétienne. Et à mon avis, il faudrait interroger cette inspiration. Et à partir de là, effectivement, on pouvait aborder les grandes questions de la vie en société et de l'adversité de toutes les catastrophes possibles avec la cohérence d'un système religieux. Et donc l'apaisement possible ou bien de certaines peurs que les prédicateurs ou bien tous ceux qui ont écrit à ce moment-là ont pu développer d'une manière parfois un peu excessive, et les visionnaires en particulier aussi.
Et c'est une façon aussi d'avoir une sorte de pouvoir, d'exercer une sorte de pouvoir sur les personnes aussi.
Alors, dans certains cas, ça devait être le cas également, oui, oui, bien sûr. Exercer un pouvoir et dans la cohérence de ce système. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'explosion de ce système, quoi. Non seulement le système religieux, mais au fond, toutes les caractéristiques qu'a donné ce système au développement d'une histoire occidentale, quoi.
Une explosion positive?
Non, une explosion au contraire qui est la. Je crois que c'est la fin de ce système-là, quoi, si vous voulez. Cette proposition d'un monde en progrès constant avec une dimension qui a mis en avant très fortement à la fois l'importance de la personne humaine, mais dans son rapport avec le bien commun. Fait qu'aujourd'hui, malgré tout, le bien commun est resté un peu en arrière-fond et que la surenchère sur l'individu, sur la personne, a fait que nous arrivons au bout d'un système, d'un développement qui n'est plus possible aujourd'hui avec la dimension de satisfaction de l'individu qui n'est plus suffisamment ordonnée à l'organisation du bien commun. Et finalement, d'une certaine manière, paradoxalement, l'inspiration de la civilisation, entre guillemets, chrétienne, qui est née encore une fois vers le IVe siècle dans le monde occidental, a participé au développement et finalement maintenant à la faillite de ce système, quoi.
Vous parlez effectivement actuellement d'une société dans une mutation majeure.
Absolument, et qui va devoir passer par une espèce de dépouillement radical pour inventer une autre forme d'organisation sociale. Et finalement, ça n'enlève rien de l'originalité, de l'inspiration de la foi chrétienne qui pourra participer à la construction d'une nouvelle manière de se situer ensemble et qui a quelque chose à dire, justement. C'est là l'intérêt, je crois, de l'apport chrétien, qui a quelque chose à dire sur la qualité d'une vie profonde, d'une vie fondée et d'une vie qui peut se déployer en surabondance, quoi. Je pense que, vous voyez, l'encyclique du pape, la récente, est un bon exemple Oui, c'est un bon exemple de ce qu'on peut développer en matière pour construire un monde nouveau, quoi, en quelque sorte, même si on peut la taxer de toutes sortes d'idéalisme et de tout ce qu'on voudra. Il y a finalement une proposition là qui change complètement les repères par rapport au monde ancien.
Le
Oui.
transhumanisme, frère Jean-Pierre, donc cherche bien sûr à allonger, hein, on le sait, la durée de la vie. Vous, à cela, vous répondez que ça n'est pas la durée de la vie qu'il faut prolonger, c'est la qualité de la vie, son intensité.
Oui, parce que au fond, le transhumanisme est une manque d'imagination. Parce qu'au fond, qu'est-ce que voudrait relayer le transhumanisme? Il voudrait relayer une approche de la vie relativement réduite à des apparences, quoi, c'est-à-dire à ce qui fait la vie aujourd'hui dans son développement psychique, etc., etc. Il y a une absence, par exemple, et ça, beaucoup de neurobiologistes l'ont souligné, il y a une absence de possibilité pour le transhumanisme de donner tout son poids à la dimension de conscience. Ça échappe complètement, aux scientifiques qui travaillent sur le
Vous
transhumanisme.
voulez dire qu'un homme augmenté, par exemple, hein, comme on le dit dans le transhumanisme, un homme
Voilà.
augmenté avec des petites piles, etc., ça n'améliore pas l'état de conscience, c'est cela?
Mais non seulement ça ne l'améliore pas, mais il n'en a pas. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, en tout cas, on ne sait pas suffisamment ce que c'est que la conscience pour créer cette dimension dans une humanité augmentée, oui. Ça, on n'a pas la possibilité, on ne le sait pas. Damasio, par exemple, Antonio Damasio, ce grand neurobiologiste, a écrit sur ces questions-là d'une manière intéressante. Et donc, le transhumanisme n'est vraiment pas une espérance. Non, ce n'est pas une espérance. D'autant plus qu'on est très très loin même de la réalisation de ce qui peut être envisagé déjà simplement avec les moyens que nous avons. C'est pas pour immédiatement tout de suite.
Frère Jean-Pierre Langeac, qu'est-ce que le paradis aujourd'hui pour un chrétien?
Le paradis, je crois que c'est le partage de ce que peut être une vie infusée par la force de l'amour, quoi, si vous voulez. Alors la force de l'amour, au fond, nous en avons tous plus ou moins l'expérience, ça nous traverse, ça vient de très loin, d'au-delà de nous-mêmes finalement. On ne sait pas tellement par où ça vient et comment ça se passe, mais ça nous traverse et ça nous rend heureux, quelle que soit la forme en quelque sorte de la manifestation de l'amour. Et on peut dire que cette infusion de l'amour en nous, de mon point de vue, c'est ce qu'on peut appeler la vitalité divine, quoi, qui nous est donnée. Et notre foi, je pense que c'est là que ça peut être le plus intéressant, peut s'exprimer comme une reconnaissance, en quelque sorte, de ce don. Et s'il y a vraiment cette reconnaissance d'une vitalité qui nous est infusée pour vivre des relations pleines et entières, à ce moment-là, c'est le paradis.
Ben, c'est le
Et il n'y
paradis
a pas
sur Terre à
besoin
ce
de...
moment-là, oui.
Mais c'est déjà le paradis sur Terre, oui. On peut déjà, il est bon d'imaginer la densité du paradis dès cette vie maintenant. Et il est bon aussi d'imaginer que le paradis n'est pas facilement accessible non plus, puisque notre vie est aussi confrontée à l'épreuve, à la souffrance, à bien des difficultés. Mais en soi, les racines du paradis, si on peut dire, elles sont là à portée de main. La vie éternelle peut déjà se vivre aujourd'hui. C'est la vie pleine, c'est la vie entière.
Quand elle est heureuse, oui. Quand elle est heureuse, quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a
Quand
pas de
elle
malheur, pas de maladie, pas.
est...
Oui.
Même quand il y a traversé la souffrance, si vous voulez, le moteur de cette vie-là, il est toujours présent. C'est-à-dire que des actes de solidarité, des actes d'héroïsme même pour le salut de tous, etc., se manifestent au cœur même de ce qui est le plus difficile dans l'existence. Donc il y a toujours un moteur, et non seulement un moteur de survie, mais un moteur de densité humaine, qui pointe constamment, même dans les circonstances les plus insoutenables de l'existence. Et s'il n'y avait pas ce moteur-là, nous serions déjà tous morts.
Ce qui vous fait dire que cette période du Covid, on va finir par la traverser un jour prochain.
Ah non, absolument. Mais là, nous, on est en train de vivre une étape de l'histoire de l'humanité qui est très intéressante, même si elle provoque des choses très désagréables et même qui peuvent être radicalement insoutenables. Mais je pense qu'on est dans dans une mutation, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, qui est radicale et qui nous fait passer à une autre ère. Donc, il faut le vivre avec, je crois, avec cette densité relationnelle, cette force de solidarité, cet appui profond sur des fondements de l'existence qui vont nous permettre de faire tout autre chose que de compter les points, quoi.
Sur la mort, quelques mots. Vous dites concernant la vôtre, je voudrais mourir comme un acte de naissance, comme une explosion de vie. Ça, vous l'avez écrit il y a quelques années, mais vous dites que vous avez un petit peu bougé quand même là-dessus. Vous avez vu des frères mourir, vous avez vu des gens mourir autour de vous, et bon, vous avez peut-être une vision plus nuancée de ce qui sera votre mort.
C'est-à-dire la mort reste quand même une grande question et difficile à aborder, surtout quand on y est confronté en direct pour soi-même, mais aussi pour les autres qu'on aime, en particulier pour ceux qui nous entourent et qu'on aime. Mais je garde quand même au cœur le désir de pouvoir vivre cet acte majeur de l'existence, hein, dans une espèce de conscience vitale, quoi. J'ai de la chance, mais j'ai jamais pensé que la mort soit un arrêt de quoi que ce soit. D'une certaine manière même, on en parlait récemment avec un ami qui n'est pas croyant, d'une certaine manière, on peut même se demander si la mort existe vraiment. Est-ce que c'est pas une transformation, simplement, au fond, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, quoi. Hein, c'est le grand adage des scientifiques d'une certaine époque. Mais je crois qu'on peut le dire aussi dans la foi, d'une certaine manière.
Alors
après la question de l'existence personnelle au-delà de la mort, toutes ces choses-là qui caractérisent effectivement la foi chrétienne, et la résurrection au sens très spécifique du terme, sont des questions qu'il faut développer plus longuement, mais déjà dans un premier jet, la mort n'est pas forcément un arrêt, quoi.
Oui, alors on terminera précisément avec cette phrase que vous avez mise au début de votre livre, cette phrase de Christiane Singer, « Je ne suis qu'une vivante qui s'en est allée vivre ailleurs », et c'est ce qu'elle disait à la veille de sa mort.
D'une certaine manière, j'aime beaucoup cette phrase, effectivement, et c'est vrai, nous sommes tous là.
Je vous remercie, frère Jean-Pierre. Donc je rappelle le titre de votre livre « Sur les traces de l'au-delà ». C'est un livre de conversation entre vous et Monique Hébrard et c'est publié aux éditions Salvator. Merci, frère Jean-Pierre.
Merci à vous de tout cœur. Merci.
C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.